9 ans, désespérée par la gravité de son état de santé et la difficulté à accéder à des soins. Un die-in pour rappeler qu'aujourd'hui encore on meurt, même à petit feu, des suites du Covid-19. Un die-in qui raconte aussi tout ce que les malades d'aujourd'hui doivent à celles et ceux qui ont lutté contre le sida. Car c'est en grande partie leur lutte sans relâche pour imposer la maladie dans le débat public qui a permis le passage du statut de patient, objet du médecin, à celui de sujet de droit. Et si la loi de 2002 autour du droit au consentement des malades, dite aussi « loi Kouchner », a ouvert la voie à d'importantes avancées, il reste encore beaucoup à faire pour que les personnes malades arrivent à se faire entendre aussi vite et aussi fort qu'elles en ont parfois besoin. Mais n'en doutez pas, les malades chroniques sont nombreux à s'organiser pour améliorer leur existence. Hier, les malades du sida, aujourd'hui celles et ceux du Covid long, ils nous rappellent qu'un droit ne se demande pas, il se gagne.
Je m'appelle Pauline Oustrick, j'ai 31 ans, je suis patiente atteinte de Covid long depuis mars 2020 et je suis présidente de l'association APRIGIVIN Covid long France qui œuvre pour la reconnaissance, la communication, les soins et la recherche des malades atteints de Covid long. Et je suis aussi chercheure en nutrition comportementale et en prévention. Moi, dans mon cas, donc ça a commencé au tout début en mars 2020, j'étais en thèse en Angleterre, j'ai eu le Covid à mon lieu de travail parce que je travaillais avec des patients et près d'un hôpital, alors que pourtant j'avais pris des précautions de distance, etc. Mais à l'époque, il n'y avait pas de masque. J'ai eu des premiers symptômes très classiques, c'est-à-dire difficulté à respirer, de la toux, j'ai perdu ma voix, et puis en fait, de la grosse fatigue. Et puis après, ça allait mieux pendant 2 jours, et ensuite, ça ne s'est plus arrêté. C'est-à-dire que j'ai eu des symptômes qui ont persisté et qui apparaissaient ou disparaissaient jusqu'à encore maintenant. Donc ça a d'abord été de la fatigue, mais la fatigue à la marche, c'est-à-dire que je n'arrivais plus à accélérer. Je me rendais compte que je ne pouvais plus rattraper des personnes qui étaient devant moi. J'avais des gros problèmes cognitifs, donc j'écrivais ma thèse en anglais, je pouvais plus lire en anglais, j'arrivais même plus à lire en français, j'avais du mal à ouvrir les yeux, à rester réveillée, j'avais des soucis aux yeux aussi, les yeux qui piquaient, des yeux qui brûlaient, des problèmes digestifs, j'ai commencé à avoir très très mal à la poitrine. J'ai fait des malaises. Enfin, ça allait de mal en pis. J'ai été hospitalisée à 2 reprises en avril en Angleterre. Mais comme j'étais jeune et que j'étais une femme, donc j'étais pas dans les facteurs de risque pour le Covid sévère. Mais il n'y avait pas de place à l'époque, donc j'ai pas été gardée. Et voilà, j'avais vraiment des symptômes qui étaient handicapants au quotidien parce que je pouvais même plus, je pouvais plus travailler, je pouvais plus me lever, je pouvais plus marcher. J'avais du mal à m'occuper de moi-même. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été rapatriée en France, en fauteuil roulant et en ambulance. Et là, j'ai été prise en charge d'abord à Foch. Et c'est là qu'ils ont diagnostiqué une dysautonomie. Cet dysfonctionnement de mon système autonome avec ma tension qui monte pas à l'effort. Et puis après, ça a été un peu le parcours du combattant pour essayer de comprendre les différents symptômes. Voilà, au début, quand je suis arrivée en France, comme je testais négatif au Covid et que j'avais très mal à la poitrine, on a fait des tests, on voyait rien. Donc, ce que vous diront tous les patients, c'est on a des symptômes, on a mal, on est invalidé, on est handicapé, on fait des tests, on voit rien. Et du coup, on nous dit, bah, c'est dans votre tête, vous êtes jeune, vous êtes fatigué, vous êtes stressé, ça passera. Et puis à force de fouiller, de lire la littérature, de chercher, en fait on fait les bons examens et là on trouve. Et là à partir de 2023-2024, on a fait tous les examens adéquats et on a trouvé un hypométabolisme, un syndrome d'expression masse sociétaire, un SAMA, une dysautonomie. J'ai eu beaucoup de chance de pouvoir objectiver tous mes symptômes, mais ça s'est passé après un parcours de combattant de plusieurs années pour qu'on puisse comprendre ce que j'avais.
Je suis Solène, j'étais enseignante avant 2020, j'enseignais en lycée, à l'université. J'étais déjà malade chronique, mais je suis tombée beaucoup plus violemment malade en 2020, avec Covid long et problèmes cardiovasculaires. Alors, mon cas n'est pas vraiment un bon cas, parce que moi, je l'ai sûrement eu très tôt, et je n'ai pas de certitude sur le moment où je l'ai eu, puisqu'à l'époque, c'était trop tôt pour avoir des tests, etc. La compréhension du fait que j'avais un Covid long s'est fait sur le long terme. L'errance médicale est la façon dont beaucoup de Covid longs finissent par comprendre qu'ils sont Covid longs. Justement par la diversité des symptômes qu'ils peuvent avoir, par les profils différents qu'ils peuvent avoir. Moi, par exemple, j'ai des problèmes qui étaient sûrement déjà un petit peu présents, cardiovasculaires importants, qui ont été, on va dire, renforcés par le Covid long. Mais j'ai aussi d'autres symptômes très différents. On peut avoir des manifestations neurologiques. Le Covid long, c'est aussi toutes les nouvelles maladies que l'on déclenche suite à cause de l'infection au Covid.
Et qu'est-ce que ça produit, Pauline, quand on est dans ce parcours du combattant ?
Beaucoup de fatigue, parce que voilà, on essaye de trouver des solutions pour soi et pour pouvoir continuer à travailler pour avancer. Et aussi, dans mon cas, en fait, c'est ça qui m'a motivée à créer l'association. Parce que je me suis rendu compte que j'aurais jamais eu accès aux soins si j'avais pas une famille qui connaissait la science, qui connaissait la médecine, si j'avais pas, voilà, un oncle médecin. Et j'ai trouvé ça injuste et je voulais me dire qu'il fallait qu'il y ait un accès aux soins identique pour tous les malades. En tout cas, moi, personnellement, le fait d'avoir autant de mal à trouver des soins, ça m'a motivée à vouloir créer l'association et à vouloir trouver des traitements et à vouloir utiliser le fait que je connaissais la recherche pour essayer de faire avancer la recherche en France sur le sujet. Moi, ça a été un peu mon moteur parce que je me suis dit que je voulais pas avoir été malade pour rien. J'avais l'impression que ça avait quand même été un tournant dans ma vie. Il y avait un avant et un après parce que je pouvais plus être sportive comme avant, vivre comme avant. Je suis quand même rentrée chez mes parents alors que j'avais une vie autonome en Angleterre. Donc c'était un avant et un après et je voulais que ça serve à quelque chose et que d'autres patients n'aient pas à vivre ce qu'on avait vécu. Donc pour moi, ça a été une motivation pour avancer, mais ça a été difficile aussi.
C'est un peu comme si c'était une maladie mystérieuse, avec la fatigue en premier plan et plein d'autres symptômes mal déterminés autour. Alors qu'en fait, on connaît très bien les mécanismes du Covid long, qui sont la persistance virale, la thromboinflammation, la dysimmunité. Et ensuite, selon les personnes, les symptômes vont être variés selon les systèmes organiques touchés. Et ça peut être plus ou moins sévère pour toutes les manifestations. Et la seule vision unique que retient la population, c'est la fatigue.
Oui, et du coup, qu'est-ce que ça produit pour vous, cette méconnaissance, en fait, de ce qu'est réellement le Covid long ?
Eh bien, un fardeau de santé publique, des risques qui sont pas gérés, pas maîtrisés par les médecins. Donc moi, j'ai vécu les risques de thrombose, par exemple. Mais il y en a pour chaque type de système organique touché, des risques qui ne sont pas gérés parce qu'ils ne sont pas connus.
Avril 2020.
Fatigue extrême, courbature, essoufflement ou encore douleur thoracique. Sur les réseaux sociaux, d'inquiétants récits relatent sous le hashtag après J20 les symptômes qui semblent persister 3 semaines, voire beaucoup plus.
J+41, tachycardie, extrême fatigue, faiblesse musculaire depuis quelques jours.
C'est bien simple, je ne peux pas marcher et parler en même temps sans être affreusement essoufflée au bout de 15 secondes.
J'ai été diagnostiquée depuis le 7 avril. Aujourd'hui encore, j'ai des courbatures, je suis énormément fatiguée, j'ai la gorge nouée et je suis essoufflée dès que je fais un effort.
Ces séquelles sont-elles réversibles ?
Et donc justement, si on revient à cette création de l'association, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment ça s'est passé ?
Oui, tout à fait. Moi, je suivais un petit peu les groupes internationaux. Je suivais aussi les personnes qui étaient sur les réseaux français, sur Twitter. Et c'est là que j'ai découvert la psy révoltée qui, elle, avait posté un tweet depuis avril 2020 où elle postait ses symptômes qui persistaient depuis 20 jours et elle demandait à d'autres personnes de pouvoir témoigner, comprendre qu'elle n'était pas seule. Et en fait, il y a un petit groupe de personnes en France qui s'est concentré sous ce hashtag après J20, qu'on commençait à créer un site web, des images, des visuels, à communiquer un peu sur les réseaux, essayer de dire voilà, les symptômes ça s'arrête pas avant jour, on continue à être malade, le discours actuel ne correspond pas à ce qu'on vit, à notre savoir expérientiel, et du coup on voudrait un peu changer la communication. Et j'ai rejoint ce petit groupe vraiment dès le début, hein, et on a décidé de travailler ensemble, chacun avec ses compétences propres, d'apporter et de construire les. Et du coup, en fait, ce qui était assez motivant, c'est qu'on se rendait compte que dans tous les pays auxquels on avait accès, on avait les mêmes symptômes. Et du coup, c'était vraiment réel. Parce que forcément, au début, quand on a des symptômes qui sont persistants, fluctuants, que personne ne nous comprend, qu'on nous dit que c'est dans notre tête, qu'on ne comprend pas, on se pose quand même des questions. On se dit, qu'est-ce qui nous arrive ? Est-ce que c'est nous qui faisons perpétuer nos symptômes ? Eh bien non, en fait, c'est pas possible culturellement qu'on ait tous des symptômes identiques dans des pays et des cultures différentes au même moment. Et donc, du coup, c'était aussi assez... fort et marquant de pouvoir documenter et de montrer la documentation faite par les malades. En fait, les malades, ils ont créé les premiers groupes de parole, les premiers groupes de soutien dans tous les pays. Ils ont collecté beaucoup d'informations qui ont après été utilisées par les chercheurs pour pouvoir définir la maladie, comprendre ce qui se passait.
C'est la toute première définition clinique officielle du Covid long et on la doit à l'OMS. Jusqu'à présent, le manque de clarté a compliqué les efforts pour faire avancer la recherche et le traitement. Maintenant, il est clairement établi que la maladie survient chez des personnes qui ont eu de nouvelles infections au coronavirus confirmées ou probables, généralement 3 mois après le début de leur Covid, avec des symptômes qui durent au moins 2 mois et ne peuvent être expliqués par un autre diagnostic.
Et puis, ce qui a déclenché la création d'association, c'est qu'on a été invité le 21 août 2020 à l'OMS. Donc ça, ça a quand même été un grand marqueur, un grand pilier. On a été invité pour le premier plaidoyer sur le Covid long, où il y avait le directeur de l'OMS. Et là, j'ai vraiment eu l'honneur et la chance de pouvoir représenter plusieurs pays européens, donc la France, la Finlande, l'Italie et l'Espagne. Et oui, je pense que j'étais très émue et reconnaissante de pouvoir apporter ma petite pierre à l'édifice. C'est vraiment un travail collectif. C'est tout le monde, en fait. C'est tous les patients qui ont chacun mis leurs symptômes documentés sous forme de cahiers, de photos, de vidéos, cartographié la maladie, etc. C'est en fait, c'est chacun qui a fait sa petite pierre à l'édifice et qu'on a pu porter collectivement à l'OMS ce jour-là.
Des sourires aujourd'hui.
Et oui, à l'école, dans les entreprises, dans les magasins, puisque le masque n'est plus obligatoire, ça y est, et le pass sanitaire plus réclamé. Mais au moment où les contaminations repartent à la hausse, certains, Marion Ferrer, préfèrent attendre avant de s'en passer.
Et c'est le cas d'Olivia, qui porte d'ailleurs son masque même dans la rue. La jeune femme de 25 ans a contracté le Covid il y a un mois. Alors que les contaminations repartent à la hausse, pas question pour elle de revivre l'expérience.
C'était quand même assez handicapant pendant 2 semaines, donc j'ai pas trop envie de le réattraper là maintenant. Par exemple, là je vais aller faire du shopping dans le centre commercial, je pense qu'il va y avoir pas mal de monde. Là où il y a pas mal de concentration de personnes, c'est mieux de le garder quand même.
Sentiment partagé par David. Il travaille auprès de jeunes et il s'inquiète de voir les gestes barrières diminuer.
C'est pas normal que depuis longtemps on nous dise qu'il faut faire attention aux gestes barrières, etc. Et qu'on lâche ça comme ça, je ne trouve pas la cohérence un peu.
Quelques mètres plus loin, Daniela, 65 ans, et toujours 3, 4 masques dans son sac à main. Cette retraitée trouve son état de santé trop fragile pour s'en passer.
J'ai peur parce que j'ai un peu de cholestérol, un peu de diabète, un peu de l'hypertension. Mais voilà, donc c'est pour ça que j'essaie par tous les moyens de me protéger.
En revanche, le port du masque en intérieur reste obligatoire dans certains endroits, comme les transports en commun.
L'association en elle-même s'est créée en début 2022.
Solène Tanguy, présidente de l'association Winslow Santé Publique.
Elle s'est créée sur la base de la fin des mesures sanitaires Covid. On a vu qu'elles allaient, une par une, en fait, être abandonnées. Donc, on est sur l'inverse, en fait, de ce qu'on aurait dû faire. On aurait pu mettre des règles de port de masque dans les lieux les plus essentiels, purifier l'air, mettre des systèmes de ventilation performants qui auraient aussi évité d'autres virus. On aurait pu mettre des règles du type prévenir, rester chez soi si on est malade, encourager à ne pas aller malade au travail, par exemple, des dépistages rapides, plus rapides. Et au final, on est passé par une culpabilisation des personnes qui cherchent à se protéger et à protéger les autres. Et au départ, la plupart d'entre nous militaient déjà dans d'autres groupes informels, divers, d'entraide. J'avais rencontré une partie des membres par visio et on a décidé de créer l'association. C'est une association qui lutte pour les droits des malades chroniques, notamment des Covid longs, dans un temps d'épidémie de Covid, un peu continue, on va dire, maintenant. Et également pour la prévention et la reconnaissance des malades.
50 pandémies, 5 ans de déni, on a la rage.
Les manifestants exigent une vraie reconnaissance de leur maladie. Gaëtan est en fauteuil roulant depuis sa 3e contamination en janvier 2023.
Le virus il continue de circuler, donc de faire des Covid et donc de faire une partie de Covid long. Nous, on n'a pas envie que les gens ils nous rejoignent dans cette maladie. C'est pour ça qu'on manifeste aujourd'hui, pour se faire entendre, pour revendiquer de la prévention, l'importance des masques FFP2 dans les milieux clos, en hôpital, dans les salles d'attente, etc. Et on revendique après des droits pour nous qui sont déjà malades, pour en fait avoir le droit de se soigner normalement.
Tout l'objet de notre action, c'est un peu reprendre le pouvoir sur ce qui nous arrive. On subit énormément. Il y a des situations de violence symbolique. Quand vous vous retrouvez aux urgences ou dans un cabinet de médecin et que il vous demande de retirer votre masque parce que ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous toucher, comme si c'était une transmission par contact. Bon, ben voilà, c'est une violence. Il y a aussi le fait de ne pas reconnaître la maladie. Il y a beaucoup de personnes qui ont, par exemple, des formes d'épuisement extrême ou alors de malaise post-effort parce qu'ils ont une encéphalomyélite myalgique associée. Il y a beaucoup de personnes qui ont des symptômes neurologiques qui sont difficiles à déterminer, cardiaques difficiles à déterminer. Et du coup, c'est vite mis sur de l'anxiété, par exemple.
Je suis actuellement donc en thèse au laboratoire d'histoire des technosciences en société du CNAM. Donc, c'est un laboratoire qui étudie la fabrique des sciences et des savoirs.
Lucille Sergent, sociologue.
Et je fais une thèse en fait sur la participation des personnes malades en France. Je regarde en fait comment la participation peut être effective ou pas, si elle est instrumentalisée. Et pour ça, je fais des études dans plusieurs associations ou sur des recherches participatives. Alors, en fait, j'ai aussi donc une maladie chronique. Et une fois que j'ai eu le diagnostic, j'ai décidé d'écrire un premier livre. C'était un guide de survie des patients face à la blouse blanche. Et en écrivant ce livre, j'ai rencontré l'équipe de l'Université des patients. Moi, je connaissais pas du tout l'expertise des patients à l'époque. Et j'ai fait un cursus là-bas de démocratie sanitaire, donc qui m'a appris aussi à mobiliser des savoirs que j'avais acquis en tant que patiente et à les mettre au service de la société. Suite à ça, j'ai entrepris des études de sociologie pour approfondir en fait mes questionnements sur les rapports de pouvoir qu'on pouvait trouver dans la démocratie sanitaire, sur le fait que voilà, le patient était parfois considéré comme un objet plus qu'un sujet et comme une personne. D'ailleurs, on dit souvent patient, c'est l'objet du médecin et pas personne malade. Et puis, donc j'ai décidé de faire une thèse sur le sujet. Alors, moi, j'aime bien dire que je suis autant sociologue que malade quand je suis en blouse jetable dans une IRM ou dans une salle d'attente. Et on sait à quel point ça peut être interminable, les urgences. Donc voilà, j'ai ce double regard, en fait, sur le sujet.
Le titre de votre premier livre, c'est donc « Guide de survie face aux blouses blanches ». Survie, c'est un mot fort. Pourquoi est-ce que vous avez écrit ce livre ?
En fait, alors l'idée de ce livre, je l'ai eue en assistant à la consultation d'un proche. Moi, il faut savoir que j'ai une maladie rare et en fait, alors j'ai été diagnostiquée à 30 ans, mais je suis malade depuis toute petite, c'est une maladie génétique. Et j'étais je disais que j'étais un peu chochote, il y a beaucoup de femmes qui ont ce parcours. Mais j'avais déjà en fait acquis plein de savoirs dans mes façons de questionner les médecins pour être sûre que j'avais bien compris les questions, pour ne pas sortir d'une consulte sans avoir eu toutes les infos, même si c'est des consultes qui doivent être courtes parce qu'il y a un système gestionnaire derrière qui est assez fort aujourd'hui à l'hôpital. Et en fait, j'ai accompagné ce proche. Et je le vois pendant la consultation, en fait, se décomposer face à un médecin. Donc, il avait eu un diagnostic assez grave, en fait. Il était assez jeune. Et le médecin, en fait, le bombardait de questions. Et je voyais qu'en fait, il répondait automatiquement. Parfois, il disait des choses qui étaient fausses. Mais le médecin s'en rendait même pas compte parce qu'il suivait son questionnaire et il le connaissait pas. Et lui ne savait pas à quel moment il pouvait poser des questions. Et je me suis dit, je vais mettre ce savoir au service d'autres malades. Et j'ai eu l'idée d'écrire ce livre qui était au départ assez simple. Je me suis dit, je vais partager mes outils, en fait.
Quelques conseils pour vous aider à surmonter votre peur. 1. Il est écrit dans le serment d'Hippocrate, « J'exercerai mon art dans l'innocence et la pureté ». Vous en avez la preuve. La blouse blanche n'est pas dangereuse, mais pure et innocente. 2. Les médecins ne font plus d'offrandes de patients à Hippocrate en dansant nus des potrons minés. 3. Ils sont des êtres humains aux personnalités différentes. Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec le médecin que vous consultez, vous n'avez pas à lui jurer fidélité. 4. Le médecin n'est pas votre professeur, ni votre directeur des ressources humaines ou votre supérieur. La consultation n'est pas une convocation et vous ne repartirez pas avec un bulletin d'évaluation, seulement un carnet de santé. 5. Les saignées n'existent plus. 6. Votre corps est important, et plus important que votre angoisse ou votre fierté face à la blouse blanche. 7. Votre santé est essentielle. 8. Et puis, s'il n'y avait plus de patients, votre médecin serait au chômage technique. Lucille Sergent, petit guide de survie des patients face à la blouse blanche. Et ensuite, vous avez écrit un autre livre. Est-ce que vous pouvez nous rappeler son titre ?
Alors, c'est « Malade en action, démocratie sanitaire en question ».
Et donc, dans ce livre, vous avez une approche plus de sociologue. Oui. Moi, quand je l'ai lu, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant parce que j'ai découvert toute une histoire que je ne connaissais pas. Pour moi, l'implication des personnes malades dans leur parcours de soins, en tant vraiment que sujet politique qui revendiquent, partagent leur savoir, exigent des traitements, ça commençait avec le sida. Mais non, pas du tout. Est-ce que vous pourriez nous raconter, vous, dans vos recherches, ce que vous avez trouvé ?
Oui, en fait, je me suis poser cette question parce que en regardant au départ le travail associatif, en même des publications qui avaient été faites sur les activités des personnes malades, activités à usage social, à usage politique, je me suis dit en fait je vois pas pourquoi tout à coup hop le sida et on se met à être actif en fait. Donc j'ai voulu tirer un petit peu des ficelles et je me suis posé la question de la démocratisation de la santé. Et en fait, faut savoir que après la Révolution française, en fait, en France, on a un grand mouvement d'émancipation citoyen, en fait, qui revendique en fait le droit à l'égalité, les droits sociaux, et la santé n'est pas épargnée par ça. Du coup, la classe ouvrière s'approprie en fait le sujet de sa santé en s'organisant dans des sociétés de secours mutuels. C'est une forme de solidarité qui consiste pour un corps de métier à cotiser ensemble dans une caisse commune pour prévenir les conséquences des accidents liés au travail avec l'industrialisation naissante.
Pour les amendes, faut pas se laisser faire, faut refuser de les payer.
Voilà, et si la compagnie veut nous y obliger, il faut tous s'entendre et refuser de travailler.
Germinal, Yves Allégret.
Je suis arrivé ce matin, et ma première impression, c'est que vous subissez tout, sans pouvoir vous défendre.
On peut rien, c'est tout.
Au chemin de fer, c'était pareil. Jusqu'au jour où on a fondé une caisse de solidarité. Une réserve, quoi, pour les coups durs. Ça permet de dire non, quand les patrons exagèrent.
Et en fait, les ouvriers, ils se mettent à débattre sur la protection sociale, la maladie, le lien entre santé et misère. Et ils cherchent aussi à créer leur propre lieu de soins, puisque la médecine libérale, elle est trop chère pour l'ouvrier. Et l'hôpital est quand même encore considéré, il faut savoir, à l'époque, comme un mouroir, hein, c'est vraiment pour les indigents. Et cette démocratisation, en fait, elle se fait pas sans heurts. Et c'est là que c'est intéressant. D'abord, elle se confronte à l'état de la Révolution française, qui se méfie de certaines corporations, c'est-à-dire des regroupements de citoyens qui pourraient contrevenir, être des contre-pouvoirs aux ambitions de ce nouvel État. Et puis au patronat philanthrope qui voit les sociétés de secours mutuels comme un outil syndical. Et ils souhaitent eux plutôt que la santé soit l'objet de l'assistance, de la charité philanthropique envers les plus pauvres, afin notamment de moraliser cette classe ouvrière. Et donc, eux, ils développent en parallèle d'autres formes d'organisation mutualiste qui sont vraiment organisées et gérées par le patronat. Alors, ces sociétés, après la Révolution, elles sont interdites, mais tolérées. Donc, on a quand même des formes d'organisation autogérées. Et en fait, dès 1852, Napoléon III décide, avec le soutien de la philanthropie, de créer un système de mutuelles qu'il appelle approuvé. Et en fait, pour être subventionné, ces sociétés agréées, elles doivent être dirigées par des notables, donc des gens du patronat, et les sociétaires ne peuvent plus en élire les dirigeants. Et là, en fait, c'est intéressant parce que à cette époque, il n'y avait pas vraiment de distinction réelle entre ce qu'on appelle le syndicalisme et la protection sociale. Et à partir de là, on va vers une autonomisation des mutuelles par rapport à ce syndicalisme. Et c'est finalement une première tentative étatique et du patronat de dépolitiser la santé. En fait, considérer la santé comme apartisane en l'excluant du champ d'action de la lutte ouvrière, c'est pas anodin parce que ça soustrait ces questions au débat citoyen.
Dans la presse ouvrière anarchiste, on discute de la protection sociale. Alors même que les ouvriers les plus qualifiés sont bénéficiaires des prestations des sociétés de secours mutuels, ils réfléchissent aux conséquences de lier la protection de la maladie aux revenus. Amédée Langlois écrit en page 8 du journal Le Peuple, le 21 mai 1849. « Allez, monsieur, dans le faubourg Saint-Marcel. Pénétrez dans les mansardes de la rue Mouffetard. Soyez témoin de la misère qui y règne. Et vous reconnaîtrez bientôt que les braves gens qui habitent ce faubourg sont, pour la plupart, dans l'impossibilité absolue de rien verser dans ces caisses de secours mutuelles. Pour vivre demain, il faut vivre aujourd'hui. La question que vous mettez en avant n'est qu'une question secondaire, car ce n'est qu'une question de capital, ce n'est pas une question de travail.
Mais là, parce qu'on ne peut pas revenir en arrière, en 2020, ce n'était pas reconnu. On n'avait pas encore de définition, on n'avait pas de guide. Maintenant, on a plein de définitions, plein de guides de prise en charge, de parcours de soins. On a une loi qui, malheureusement, n'est pas mise en œuvre et appliquée, mais on a une reconnaissance.
Qu'est-ce qu'elle dit, cette loi ?
Cette loi, qui avait été faite à la demande des patients et qui avait été votée à l'unanimité, elle demandait une prise en charge de tous les patients et une plateforme pour recenser et faciliter la prise en charge des patients. En résumé, il y avait plusieurs autres choses, mais il n'y avait que deux articles. Malheureusement, elle n'a toujours pas été mise en application. Et c'est d'ailleurs une de nos revendications depuis le début. Sur le terrain, si on demande à un patient, à un malade, il va vous dire « bah non, moi j'ai l'impression de ne pas être pris au sérieux, mon médecin il sait pas ce que c'est, au travail ils savent pas ce que c'est non plus, dans ma famille ils savent pas ce que c'est ». Donc en fait, il y a un grand écart, une grande différence entre tout ce qui a été fait, avancé au niveau d'association et au niveau institutionnel, et ce qui se passe vraiment sur le terrain. Et c'est pourquoi on essaye de se battre pour qu'il y ait de la communication, parce qu'en fait c'est la première pierre. Si la communication n'est pas faite au niveau des institutions, et qu'on ne dit pas que le Covid... ça peut toucher tout le monde, et que le Covid long, ça peut toucher tout le monde, et que la meilleure façon d'éviter le Covid long, c'est d'éviter le Covid. Bah déjà, si on dit ça, bah, ça permettrait peut-être de limiter un peu et de faire de la prévention, mais actuellement, exactement, c'est pas le cas. Donc du coup, il faut qu'on sensibilise, qu'on forme les médecins, qu'on forme les institutions, et ça, vraiment, il faut que ça change, et rapidement, parce que les patients, ils en peuvent plus.
Le problème qu'on a, c'est que les gens ont divisé la population en vulnérables et invulnérables, et que les personnes ne se rendent pas compte que même si elles ont eu le Covid deux fois, trois fois, ça peut être à la quatrième fois qu'ils développeront un problème suite au Covid. Et cette division de la population en vulnérable et en invulnérable, elle a complètement isolé énormément les personnes qui souhaitent continuer à se protéger. Or, le Covid long concerne tout le monde. Ce qui est un petit peu triste, c'est que on a abandonné les mesures en voyant le sacrifice d'une partie de la population comme inévitable. En disant que ça serait le sacrifice des bien portants. Et du coup, on n'a pas évolué, juste. On aurait pu évoluer, on aurait pu purifier l'air, s'habituer à mettre un masque dans certains lieux essentiels, etc. On aurait pu afficher la qualité de l'air comme ça se fait en Asie quand on rentre dans un cinéma. On aurait pu évoluer, en fait, tout simplement. Et on a présenté ça comme un sacrifice nécessaire, alors qu'il est odieux en lui-même, parce qu'il est eugéniste à la base, mais qui en plus est faux, c'est-à-dire que ça n'est pas que ça, en fait. C'est aussi sacrifier sa santé à long terme ou celle de l'un de vos proches, au final.
Nous sommes les Covid oubliés, ces mystères qu'on néglige, ces malades indignés, ces patients qu'on fustige. Personne pour nous aider, notre espoir ça me nuise. Nous les Covid oubliés, ensemble on se mobilise. Nous sommes les Covid oubliés, ces mystères qu'on néglige, ces malades indignés, ces patients qu'on fustige. Personne pour nous aider, notre espoir ça me nuise. Nous les Covid oubliés, ensemble on se mobilise. Parmi nous, des jeunes, des vieux, tous réunis dans le même combat.
Lucille Sergent, est-ce que vous auriez un exemple tiré de vos recherches d'une question qui aurait été amenée par des personnes malades à des associations et qui les aurait défendues, pour qu'on voit aussi quel est leur impact, leur utilité dans le quotidien des personnes malades.
J'ai siégé dans une sorte de comité éthique pendant le Covid, en fait. C'est vrai qu'on, par exemple, les personnes ou les familles, parfois, puisque quand les personnes étaient pas en état de pouvoir s'exprimer, pouvaient saisir le représentant des usagers parce qu'ils estimaient que leur droit au consentement aux soins était bafoué. Pas notamment pour des questions de réanimation, de ventilation, ou en plus, dans la période Covid, les décisions devaient être prises assez rapidement. Et donc, dans ce cas, le représentant des usagers va questionner les services, va peu conseiller aussi pour des actions judiciaires parfois, ou servir de médiateur, en fait, avec l'établissement pour aller voir les équipes, essayer de comprendre ce qui se passe, en fait.
Est-ce que vous pourriez juste nous en présenter un ou deux pour qu'on se figure aussi ce que c'est qu'un
dispositifs participatifs, oui, à l'hôpital.
Par exemple, un de mes terrains, c'était une étude, une cellule éthique dans un hôpital pendant la crise Covid. Et donc, tout s'est fait très rapidement avec des personnes, notamment des médecins, hein, qui se considèrent comme assez bienveillants, voilà, assez sensibles à l'éthique. Et ils ont ouvert cette cellule à tous, et donc notamment à des patients, des personnes malades, sur la base du volontariat. Mais en fait, ce qui s'est produit pendant toute la vie de cette cellule, c'est que, comme il n'y avait pas eu d'interrogation sur les règles de parole et de participation, on s'est retrouvé dans une organisation sous forme de staff. En fait, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Le staff, c'est la réunion un peu hebdomadaire d'un service médical dans lequel on va présenter des cas. Et en fait, c'était assez intéressant parce que, enfin pour moi en tout cas, pas pour les personnes malades qui essayaient de participer, parce que on voyait que les cas éthiques étaient présentés sous la forme de cas avec un PowerPoint, etc., comme un cas médical, avec un médecin qui présentait, ensuite parfois un paramédical qui prenait la parole, et du coup, jamais la parole des malades, puisque les staffs ne sont pas prévus pour la participation des patients. Et en fait, se reproduisait là tout le pouvoir médical et la façon d'organiser la présentation avec toutes les autorités qui en découlent. Et quand les malades essayaient de prendre la parole, en fait, soit les médecins les écoutaient pas, soit j'en voyais qui étaient sur leur portable. Et donc, on voyait à quel point cette parole n'avait pas de valeur, en fait, dans cet espace.
Et donc, qu'est-ce que ce serait un dispositif qui marche ?
Alors, un dispositif qui marche, c'est un dispositif dans lequel, je pense, on a pensé ces rapports de pouvoir. Je travaille actuellement sur une recherche sur la douleur chronique des femmes. Et on a essayé, on essaye de modifier tous ces rapports de pouvoir. C'est pas toujours facile, mais ça passe par des espaces dans lesquels les personnes malades sont entre elles. Des groupes de pairs dans lesquels elles peuvent co-construire sans les scientifiques qui ont tendance, malgré pour certains toute leur bonne volonté, à prendre la parole plus facilement, à ne pas accorder d'attention à des choses qui sont essentielles pour les malades mais qui ne paraissent pas essentielles pour la science. Et donc ça veut dire aussi des modérations de la parole à chaque fois qu'on se voit en groupe. Et c'est vrai que les malades me disent c'est essentiel ça, alors que certains scientifiques me disent je vois pas pourquoi on fait ça.
Il y en a assez de cette société qui ne respecte pas les malades et les handicapés.
Marseille, en centre-ville.
Donc déjà merci d'être là. L'idée c'est d'aller dans le cinéma. Et de donner les tracts, et de peut-être lâcher des petits slogans, et de bloquer les caisses, en tous les cas, de freiner la billetterie. C'est plutôt tranquille parce que voilà, on n'est pas toutes et tous avec une très grande vélocité et mobilité. Du coup, c'est plutôt une action tranquille et de venir signifier que là, il y a eu un acte de validisme et que maintenant, il faut que tout ça cesse et qu'on est là pour le dire.
Je suis Julius et je suis porteur d'un handicap provoqué par une maladie progressive. Et je suis passé d'un état de santé invisible, puis petit à petit, pas à pas, à un état où c'est devenu bien visible aujourd'hui.
Et donc, dans cet état de santé, il nécessite que vous vous déplaciez en trottinette, c'est ça ?
Enfin, c'est un état de santé qui nécessite que je me déplace avec un moyen autre que mes jambes. Je me déplace avec des béquilles à l'intérieur ou autour de chez moi. Mais pour le dehors, j'ai besoin d'un support plus important, donc d'un véhicule. Et jusqu'à il n'y a pas longtemps, j'utilisais une trottinette électrique avec un siège intégré. C'est considéré un véhicule à deux roues et c'est pas accepté. Enfin, moi, j'avais déjà vécu des moments où même on me l'a enlevé à l'intérieur des lieux.
Malheureusement, vous vous êtes donc fait voler ce véhicule. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui s'est passé ?
Je suis allé au cinéma avec mes amis et j'ai laissé la trottinette derrière le comptoir de cinéma avec l'accord des personnes qui y travaillaient. Et après le film, elle n'était plus là-bas.
Et une fois que la trottinette elle a été volée, quelle a été la réaction du cinéma et la vôtre ?
Choc total. Sur le moment, je ne pouvais pas parler. Et du coup, la personne qui travaillait derrière le comptoir, disons qu'elle, elle a réagi plutôt très mal. En vrai, elle ne s'est même pas excusée jusqu'à voir notre désespoir déborder. Et elle nous a découragés de toutes les actions possibles qu'on portait plainte parce qu'il n'y avait pas d'agression. Du coup, les assurances n'allaient pas couvrir ça. Et après quoi, du coup, on a écrit un mail à la directrice du cinéma où on a expliqué qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que la trottinette était pour moi. Et on a demandé si, effectivement, ils avaient moyen de prendre en charge avec leur assurance. Et pendant 4 mois, on n'a jamais reçu une réponse de la part de directrice.
Qu'est-ce que ça provoque à ce moment-là en vous, le fait de ne pas recevoir de réponse ?
Moi, ça me répète encore une fois, et du coup encore et encore et encore une fois, ça me confirme une réaction de ce que j'appellerais validiste de la part du cinéma, qui ont eu zéro considération de ce que j'ai vécu ce soir. Et du coup, pour que ces gens comprennent bien ce que j'ai vécu, je me suis trouvé privé de ma liberté de me déplacer.
Est-ce que vous pourriez expliquer ce que c'est que le validisme et du coup, comment est-ce que ça s'illustre dans cet exemple ?
Validisme en soi, disons, c'est un système d'oppression qui place les personnes valides dans une position supérieure vis-à-vis des personnes non valides. Et dont le résultat, c'est que la vie des personnes non valides, elle est considérée tout simplement moins importante. En l'occurrence, de ce que j'ai vécu, je pouvais voir que pour ces personnes, c'était pas important ce qui s'est passé. Et en l'occurrence, pour cette situation-là, c'était considéré pas grave de priver une personne de liberté de mouvement, de déplacement. C'était considéré pas grave de la part du cinéma. Un argument, par exemple, du coup, c'était pas la directrice, c'était la personne derrière le comptoir. Le soir où le vol a eu lieu, et après, pendant l'action, quand on est revenu, elle a répété que dans ce lieu, il y avait déjà des vols. Et par exemple, elle-même, elle s'est fait voler son ordinateur. Et qu'à ce moment, je ne lui ai pas posé la question, mais je voudrais toujours lui demander, est-ce qu'elle pense qu'avoir volé l'ordinateur, son ordinateur, ça l'empêche de faire ses courses, de se rendre dans des lieux de soins, disons, de sortir voir les amis, de sortir sur une terrasse, de sortir et tout simplement voir le soleil dans le ciel. Est-ce que le vol de son ordinateur, ça la met dans cette situation ? Je ne pense pas. Par contre, le vol de la trottinette, ça me met dans cette situation. Et de sa part, de considérer que ça c'est pareil, c'est validiste. Parce que juste, elle n'a pas mon vécu, elle ne le comprend pas et elle ne veut pas le comprendre.
En fait, il y a eu un groupe WhatsApp qui a été fait il y a quelques années.
Mélanie. Malade chronique.
Pour dire, en gros, moi, j'aimerais discuter avec des personnes qui ont des maladies chroniques. Et du coup, c'est un groupe sur lequel on se donne des noms de médecins qu'on vient d'aller voir pour dire, ah, mais en fait, cette personne, elle m'a extrêmement bien suivie. Enfin, un peu se donner des ressources plutôt médicales. Et après, certaines personnes du groupe ont donné une autre forme à ce groupe. C'était de se voir pour un peu venir échanger autour de ce qu'on traversait émotionnellement dans nos parcours de santé. Et à un moment, il y a une personne de ce groupe qui est allée au cinéma et qui a déposé sa trottinette qui lui sert comme de fauteuil roulant pour ses déplacements. Et en fait, cette trottinette a été volée et du coup, il s'est enchaîné ensuite plein de petites violences. Mais en fait, c'est juste un continuum. Il y a eu des micro-violences, micro- et macro-violences dans toute cette expérience de cinéma. Et en fait, c'était pas la première fois qu'on discutait ensemble de comment on faisait face aux violences qu'on vivait ou aux phrases déplacées, comment ça s'accumule. Et puis, il y a les violences... je dirais dans l'espace public, mais il y a les violences institutionnelles, les violences médicales. Et en fait, déjà, c'était un moment hyper précieux, justement, de pouvoir se raconter ce qu'on vivait et puis aussi de se dire comment on réagissait ou pourquoi on réagissait pas des fois et que c'était pas grave, en plus, de pas réagir. Et puis, vers la fin de la réunion, on s'est dit qu'on avait envie de faire une action et écrire un tract.
Se féliciter d'avoir un ascenseur et une rampe n'est pas suffisant. L'accessibilité responsabilité, c'est aussi accueillir dignement. Beaucoup d'handicapés à mobilité réduite n'utilisent pas de fauteuil roulant, mais d'autres dispositifs, comme par exemple la trottinette avec un siège intégré. Notre camarade a été contraint de confier sa trottinette à l'accueil du cinéma. À la fin de la séance, le constat est dramatique. La trottinette a été volée. Ici, comme dans beaucoup d'endroits, la trottinette n'a pas été perçue comme un outil médical et son usage n'a pas été reconnu comme indispensable à la vie quotidienne au même titre qu'un fauteuil roulant. L'impact du vol est encore retentissant aujourd'hui. Notre camarade, depuis 4 mois, ne peut quasiment plus se déplacer. La direction du cinéma, qui est pour nous la principale responsable de cette histoire, n'a jamais répondu à nos courriers, nous signifiant ainsi son mépris. Pour nous, cette non-réponse est une énième violence qui s'ajoute à ce que nous vivons quotidiennement. Dans cette société validiste, on vous voit au quotidien nous exclure, minimiser ce qu'on vit, nous humilier et nous contraindre à demander. Il est grand temps que ça cesse.
Au moment où une personne a commencé à lire le tract qu'on avait écrit, moi je me suis mis à pleurer. Et c'était pas parce que ça m'a remis dans ce moment traumatique en vrai. Enfin, c'était un trauma pour moi, toute cette histoire. C'était pas que ça. Je me suis mis à pleurer pareil comme une fois j'avais déjà pleuré dans un tribunal où je contestais la décision de la MDPH.
La Maison départementale des personnes handicapées.
Voilà. Et je me suis trouvé deux fois au tribunal par rapport à mes demandes auprès de la MDPH. C'est un terme que pas tout le monde connaît dans la société, mais ça suffit de parler avec une personne, on dit, et c'est une source de violence pour beaucoup de monde. Et ouais, ce moment où j'ai commencé à pleurer, ça me rappelait un peu... Enfin, ça me rappelait la situation du tribunal. Et en fait, c'est un moment où j'ai saturé dans ma tête de m'en rendre compte que ma vie est devenue... Enfin, parfois, je dis qu'elle est devenue trash. Ce moment, comme j'ai dit, de la rencontre de ma maladie et de mon corps non valide dans la société valide et validiste, c'est vraiment trash parfois. Et j'ai saturé émotionnellement.
C'est juste pour vous dire que ça ne sert à rien, vous pouvez rentrer, vous n'aurez pas de cinéma ce soir. Désolée, en fait, on bloque ici. On bloque parce que nous sommes des personnes avec des handicaps visibles ou invisibles et qu'ici s'est passée une action violente face à un camarade avec un handicap.
Pour moi, je trouve la force du collectif, c'est qu'on a créé quelque chose de plus grand que nous, individuellement en fait. Moi, en tous les cas, ça m'a donné beaucoup de force et ça a donné du sens. À un moment, j'ai choisi d'être sujet. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a changé dans ce parcours de personne malade ou handicapée. J'ai choisi, en assumant cette identité, en l'assumant politiquement, en l'assumant aussi socialement, et en refusant une fois de plus d'être l'objet et qu'on décide pour mon corps, en fait. Bon, je suis une femme, donc je l'ai déjà traversé, ça, qu'on décide pour moi sur mon corps. Mais du coup, ça a rajouté une couche. Et vraiment, là, il y avait encore ce truc de... Justement, comme au début, par exemple, je m'excusais presque quand j'allais chez les médecins de me dire ah, « J'ai une liste de trop de choses qui vont pas, il faut que je rétrécisse cette liste parce que je peux pas les déranger dans leur travail ». Eh bien, en fait, maintenant, c'est plus possible. Parce que quelque part, j'avais raison de m'inquiéter de mon état, puisqu'il y a plein de choses qui ne vont pas, que mes symptômes et mes douleurs sont réels.
On n'est pas là pour se battre avec les clients. On est là pour bloquer les caisses jusqu'à... Bah si, bah, c'est ça qu'on fait. Je suis des trottinettes à 1000 euros. Elle est où, la trottinette à 1000 euros? Elle est où, là? Elle est où?
Et cette action, in fine, qu'est-ce que ça a produit pour vous?
Je me sens très bien après cette action. Ça m'a nettoyé de trauma. Je peux revenir à ce cinéma. Je me sens tout à fait en sérénité pour y revenir, qui n'était pas le cas jusqu'à l'action. Et ça m'a fait une réparation. Et je me sens bien aujourd'hui.
C'était un moment de grande joie collective parce que c'est venu comme dire en fait on est là et on va pas se taire. Et même si c'est difficile parce qu'en fait on est traversé par plein de choses très rudes dans nos corps, et ben en fait on est quand même là, on existe vous n'allez pas vous débarrasser de nous comme ça, en fait. Je combats pas la maladie, mais je combats toutes les inégalités. Non, mais j'essaye, en tous les cas, j'ai envie de ça. Et ça m'a fait grand bien pour moi-même aussi, de pouvoir aussi penser aux autres, à des personnes qui sont alitées tous les jours, à comment, en fait, la maladie ou le handicap, elle nous efface du reste du monde. Moi, par exemple, j'avais pas fait de choses politiques depuis, je pense, plus d'un an. J'étais allée à aucune manif depuis plus d'un an, et c'est quelque chose qui a beaucoup nourri qui j'étais avant. Et ben là, il y avait cette revanche. En fait, je suis là et je le dis. Et en plus, c'est même le jeu se transforme en nous. Moi, ça m'a réchauffé le cœur très fort de me dire là, il y a 40-50 personnes qu'on connaît à peine, très peu. Bon, des corps qui semblent valides extérieurement, mais en fait, on ne sait pas ce qui vit à l'intérieur. Mais on est là et pendant une demi-heure, et c'est samedi soir, et il y a sans doute d'autres choses à faire un samedi soir que de faire une occupation. Mais on est là, quoi.
La personne n'est jamais un objet, en fait. C'est sa condition sociale qui la place de telle manière, mais elle continue d'agir comme sujet. Et à un moment, elle arrive à sortir de ce carcan, et soit elle change d'espace social, elle trouve des personnes en association, elle s'émancipe en fait de tout ça. Et je pense que les conditions de cette émancipation, en effet, ils servent à toute une réflexion sur la démocratie, sur le collectif, sur ce qui fait société en fait, de ce qui est acceptable dans une société. Et ça permet d'élargir encore les possibilités de parole et d'interroger aussi la participation. Parce qu'en fait, quand on parle de participation des personnes malades, c'est des choses qui peuvent servir, et d'ailleurs qui ont servi, à la participation des publics dans les institutions, au niveau local, au niveau scientifique. Aujourd'hui, en fait, par exemple, les malades du sida ont été les premiers à participer dans la recherche scientifique. Mais aujourd'hui, je ne sais pas, vous avez des collectifs sur l'écologie qui participent à des grandes recherches. Cette porte, en fait, du public dans l'institution, dans la science, par exemple, elle a été ouverte quand même beaucoup par les malades.
Et pourquoi, à votre avis, pourquoi est-ce que la maladie amène à défoncer les portes ?
Je pense qu'il y a tellement d'objectification des personnes. Et puis que, comme on le disait, c'est un fait total, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, la personne... Alors, il y a des personnes qui n'arrivent pas à sortir de tout ça, et qui, c'est d'ailleurs extrêmement difficile, parce que souvent, on se retrouve dans des conditions sociales, financières, qui sont très difficiles. Mais il y a un moment où on est tous des êtres sociaux, en fait, et on a besoin d'aller chercher d'autres personnes et de dire non, pour le dire poliment, à tout ce carcan.
Est-ce que vous, Pauline Oustric, et à Après-Givin, vous trouvez que ça avance assez vite ? Est-ce que les personnes malades ont l'impression de voir des avancées dans leur quotidien ?
Je pense que la réponse, ça va être assez rapide, c'est non. Nous, en tant qu'association, évidemment, on peut voir les évolutions et les avancées parce qu'on les porte. En fait, je pense que c'est ça aussi qu'il faut dire, c'est que c'est majoritairement les patients qui ont porté toutes les avancées, c'est-à-dire qui ont demandé que les choses changent, qui ont écrit au ministre. Si, par exemple, il y a eu des sous pour la recherche par le gouvernement et la NRS et mieux, c'est parce qu'on a demandé à Olivier Véran, par une lettre qui est sur notre site, qu'il y ait des fonds pour la recherche. Et il nous a reçus au gouvernement, et suite à ça, on a eu les deux premiers financements de la NRS. Mais c'était nous qui en étions à l'initiative. Pareil pour ce qui est de la mise à jour des informations sur des sites, de la recherche scientifique, il y a beaucoup de choses pour lesquelles les patients, en fait, en sont à l'initiative. Donc, c'est pour ça qu'on voit les avancées. Mais en fait, sur le vécu des patients en général, les patients, ils ne voient pas les avancées parce qu'ils n'arrivent pas à reprendre leur boulot. Ils ne sont pas soignés de manière adéquate parce que les centres, soit il n'y en a pas assez, soit ils ne sont pas formés adéquatement, soit ils ferment. Donc, du coup, il n'y a pas de suivi sur le long terme. Donc, très clairement, là, actuellement, les messages qu'on reçoit et témoignages qu'on reçoit des patients, c'est qu'ils n'en peuvent plus, ils n'ont pas arrêté leur vie d'avant, ils ne sont pas pris en charge. Et pire que ça, comme on arrive aux 5 ans de la pandémie, alors là, on en reparle un petit peu, mais il y a une tendance à vouloir dire c'est fini, la pandémie, ça n'existe plus, on met ça de côté, parce que les gens, ils en ont marre de parler du Covid. À part que, pour nous, on n'est pas encore dans la mémoire, on est dans le vécu, on est dans le présent. Le Covid long, c'est du présent. C'est un vécu de 2 millions de personnes en France, donc 4% de la population française qui vit cela tous les jours. Donc du coup, oui, si la réponse c'est est-ce qu'on prouve que ça avance assez vite ? Non, tant que les patients ne seront pas soignés sur le long terme, compris, pris en charge et avec un soutien administratif et social adéquat, ça avancera pas assez vite.
Pour nous, ça semble impossible de militer pour le traitement d'une maladie, par exemple, sans lutter pour qu'elle cesse de se propager, d'infecter nos amis, nos enfants, etc. Comment est-ce qu'on peut être cru sur la gravité de notre maladie sans lutter sur la prévention ? En plus, les réinfections sont néfastes chez les personnes déjà malades. Elles les font rechuter, elles leur créent des nouveaux dommages, déclenchent de nouvelles maladies. Donc la prévention fait partie du traitement pour nous. C'est d'ailleurs le traitement le plus efficace actuellement qu'il y ait. Donc, on appliquait déjà tous avant d'arriver à Winslow d'autodéfense sanitaire, c'était l'évidence, se porter contre la hiérarchisation des vies. On a vu dès le début de la pandémie que les vieux et les malades, en gros, pour toute une partie de la population, c'était moins grave s'ils étaient mis de côté, on va dire, voire même s'ils étaient sacrifiés, pour certains. Donc, la santé, c'est collectif, encore plus dans le cadre du Covid qui est aéroporté. Donc c'est l'air partagé qu'on respire, c'est un bien commun. Et les outils de réduction des risques, ils doivent être appliqués collectivement pour nous, sur la base de la science. On a vite compris que les autorités sanitaires allaient pas nous aider là-dessus, ou peu. À partir du moment où ils ont commencé à dire que le port du masque était une responsabilité individuelle, on a su qu'ils allaient pas nous aider. Un masque unilatéral, c'est pas parfait. Dans un lieu clos, bondé, avec des gens malades, c'est jamais du 100% en fait. Hein. Ça ne peut qu'être collectif.
Nos existences handies n'ont plus à naître dans l'empêchement et l'isolement. Notre culture handie dispose d'assez de richesses et de palpitations pour se déployer. Une culture qui ne biographie plus de façon mélodramatique un avant et un après, lorsqu'une maladie chronique et ou un handicap se déclare, mais qui intègre pleinement la maladie comme pouvant faire partie du déroulement d'une vie. Il n'est pas possible de limiter nos vies. Il est temps de les célébrer à partir de leur justesse, de leur tendresse, de leur solidarité, de leur perspicacité, de leur splendeur. Ce sont autant de forces pouvant être distribuées largement, qui peuvent se combiner à plein de vécus divers, qui sont vigueur de présent et futur. Les limites validistes qui nous sont imposées ne font que nourrir nos puissances d'émancipation et de libération, autant que de création. Et ces puissances sont transposables à de nombreuses vies autres que handies. Nos existences handies n'ont plus à être un bouclier contre le suprémacisme valide, mais l'effondrement de ce dernier, et nous allons danser sur ses ruines. Zig Blanquer, nos existences handies. Merci à Pauline Oustric, Solène Tanguy, Lucille Sergent, Julius et Mélanie. Merci aussi à Zig Blanquer, à Cabriole Sanitaire. Un grand merci au groupe de soutien des malades chroniques et au groupe d'action antivalidiste de Marseille et à Raphaël. Prise de son, Jeffrey Marianne et Manon Moussin, et avec les moyens techniques de Rennes. Documentation, Anne-Lise Signoret et Antoine Villoz. Archivina, Delphine André. Mixage, Pierre-Henri. Chargée de programme, Marie-Yvonne Abolivier et Anaï Morales. Coordination, Emmanuel Laurentin. Maladie chronique, ce qui nous traverse. Quatrième épisode, quand les malades s'organisent. Un documentaire d'Alice Le Filleul, réalisé par Julie Béressy.
Vous êtes bien sur France Culture.
Beaucoup de prises de parole d'André Malraux sont restées célèbres, comme le discours pour Jean Moulin le jour de son entrée au Panthéon.
Mathieu Garrigou-Lagrange.
Mais cette série de salles des archives vous propose d'aller plus loin en réécoutant Malraux à toutes les grandes étapes de sa vie.
L'hommage d'aujourd'hui n'appelle que le chant qui va s'élever maintenant.
Avec à chaque fois une question principale, que signifiait pour lui de s'engager ?
Salles des archives, chaque dimanche à 16h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Le Moyen-Orient s'embrase à nouveau avec l'ouverture d'un nouveau front entre Israël et l'Iran.
Nicolas Herbeau.
Alors que l'État hébreu a frappé les installations nucléaires iraniennes et que Téhéran riposte à coups de drones, essayons de comprendre comment on en est arrivé là, où en est le programme nucléaire iranien et quel rôle joue le président américain. On ouvre cette discussion ce samedi matin avec nos invités.
Les matins du samedi, ce samedi à 7h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. Notre cerveau est capable de se focaliser sur une information, même dans un environnement saturé de signes. Il l'encode, la mémorise, la récupère. Dans cette nouvelle saison, Grégoire Borst, professeur de psychologie du développement et de neurosciences cognitives, nous éclaire sur ces mécanismes.
Mais on a tout à fait la capacité, depuis pratiquement notre naissance, à détecter et à orienter notre attention vers des informations qui sont pertinentes dans notre environnement.
Votre cerveau, saison 6, Apprendre à apprendre, réalisé par Charlotte Roux sur franceculture.fr et l'appli Radio France. Vous écoutez France Culture, tout de suite, les nuits de France Culture.